Pendant ces vacances, on a découvert un nouveau chanteur. C'est grâce à un film, un dessin animé que les enfants ils aiment bien. Puis il y avait une chanson dans dans ce dessin animé. Il s'appelle Shawn Mendes. C'est pas un chrétien. Mais dans ce dessin animé, il parle d'une chanson où il est amoureux de cette fille. Et puis il dit qu'il a envie de la suivre partout. Il pense à elle et puis il répète dans cette chanson souvent cette phrase, il n'y a rien qui me retient. Et puis ça semble louable, hein, c'est une relation qui veut se donner à fond. Hein, il s'ouvre à cette relation-là. Et puis c'est le titre d'ouverture de l'album, il n'y a rien qui me retient. Et puis je suis allé explorer les autres chansons. À peine quelques morceaux plus tard, il y a cette autre chanson, Pas de promesse, qu'il dit à une femme aussi. Et là, il commence à réfléchir. Il dit à la fille, dans les paroles disent, peut-être il faut laisser cette relation simple. Il faut pas décider quelque chose. Il faut pas surcompliquer cette relation. Donc, on va pas se faire des promesses. Parce qu'on va finir par les casser. Et je sais les conséquences quand on fait des promesses et on les casse. Donc voilà, avec la même fréquence que dans la première chanson, il a dit, il y a rien qui me retient. Quelques chansons après, il dit, mais pas de promesse, hein. Alors là, c'est trop. Et vous voyez bien ce conflit intérieur qu'on peut avoir. C'est pas seulement le sien d'ailleurs, c'est de tout le monde. C'est une certaine peur de l'engagement. On peut avoir des moments où on est passionné par quelque chose et puis on dit, il n'y a rien qui nous retient. Puis quand c'est le moment de s'engager, alors non, pas trop quand même. Et la peur de l'engagement, je pense qu'il vient de deux choses. La première, c'est celle-là. Je sais pas si tout le monde peut voir. La première peur de l'engagement, c'est la peur d'échouer. De commencer quelque chose, comme la première chanson a dit, de commencer quelque chose, de promettre quelque chose, et puis ne pas tenir jusqu'au bout. Donc, de commencer, puis ne pas aller jusqu'au but, et puis retourner en arrière. C'est la peur d'échouer, de ne pas tenir ses promesses jusqu'au bout. Une deuxième peur, c'est la peur d'être prisonnier de son engagement. Deux, on a peur de s'engager quelque chose, après on est démotivé par cette chose-là, et puis on ne peut plus sortir de cet engagement. C'est un peu comme chez Amazon. Il y a mon frère qui est, pourtant il est informaticien, puis il est tombé dans ce piège. Quand tu commandes un truc sur Amazon, ça vient dans le truc. Et puis après, sans que tu signes quoi que ce soit, ils te proposent un abonnement d'un mois de Amazon Prime, c'est des vidéos en streaming. Et puis, sans penser trop, déjà, ah, oui, ok, oui, ben, ils renouvellent automatiquement avec paiement de carte de crédit pour une autre prochaine période. Et puis alors, tu es prisonnier de cet engagement-là que tu n'as pas vraiment choisi de le faire. Et puis, il est tombé justement, mon frère. Après, il dit, si tu achètes chez Amazon Prime, mets bien, non, tu veux pas essayer ce truc gratuitement pendant un mois. Parce qu'après, ça va renouveler. Donc, c'est la peur d'échouer, de ne pas tenir ses promesses jusqu'au bout. Et la peur d'être prisonnier. Ce sont des peurs valides, hein, parce qu'il y a des risques de ça. On reconnaît qu'il y a un danger dans un engagement. Et donc, il y a ces peurs, il y a un risque. Et c'est pas une peur qui est juste de notre époque, même si j'écris comme ça dans la description de la série, j'écris que c'est une peur d'engagement d'aujourd'hui, mais ça a tracassé toutes les personnes au fil de l'histoire. Et on va voir un peu quelques épisodes de l'histoire où les gens ont eu peur de s'engager. Il y a un risque. Et dans la Bible aussi, Jésus, il a validé cette peur. Il a validé la peur de l'engagement. Il a raconté comme ça. On peut mettre la première partie. Jésus, il a dit ça. Si quelqu'un veut construire une tour, c'est le premier verset, oui, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant, cet homme a commencé à construire, mais a été incapable d'achever le travail. Jésus l'a dit. Et il n'était pas dit qu'il fallait faire un budget détaillé pour construire une maison, c'est pas ça qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est on pense bien avant de faire un projet de construction. C'est normal. Ben, faites-le aussi si vous voulez me suivre. Si vous voulez réellement me suivre, pensez bien avant de vous engager, de peur de commencer quelque chose et puis d'échouer, d'arrêter au milieu du chemin avec moi. Donc réfléchissez bien. La peur d'échouer est une peur légitime, Jésus dit. C'est juste de penser à ça. Il faut penser à ça avant de s'engager avec moi. Et il dit ça parce qu'après, dans le reste du chapitre, il dit parce que s'engager avec moi, c'est à vie et c'est dans tous les domaines. Donc réfléchissez bien. Ne prenez pas une décision sur un coup de cœur simplement. Ne dites pas, il n'y a rien qui me retient. Puis après, quand je vous demande quelque chose, ah non, mais attends, pas de promesse. Hein. Alors là, c'est déjà trop. Rien que ce soit trop difficile. C'est ça que Jésus a voulu dire avec cette parabole. Jésus a dit cette parole très forte qui n'est pas dans la diapo. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. C'est quand même un peu lourd, hein, comme parole. Ça découragerait beaucoup. Quand Jésus appelait, c'était soit tout, soit rien. Et un disciple à moitié, il ne voulait pas. Donc c'est pour ça qu'il a dit oui, il y a un risque d'échouer. Donc réfléchissez bien avant de vous engager dans quelque chose. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a eu cette peur de l'engagement. Et vous allez me dire, si c'était, les deux peurs sont toujours présentes dans toutes les situations que je vais montrer au fil de l'histoire. Mais vous allez me dire, spécialement vous les enfants, si vous pensez que c'était plutôt la peur d'échouer, de ne pas tenir ses promesses jusqu'au bout, ou c'était plutôt la peur de s'engager à quelque chose et puis que ça soit trop lourd et puis qu'il soit prisonnier de cet engagement-là. Puis on va voter pour cette première situation. Jésus a raconté l'histoire de cet homme qui était venu à lui et il dit Jésus se mettait en route, un homme vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Et l'homme lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Il est indéterminé, hein. Il court, il s'agenouille devant Jésus. Et Jésus connaissait le cœur des personnes avant même qu'il vienne lui parler. Il savait ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Et il savait exactement le problème du jeune homme qui était riche. Donc Jésus ne répond pas à sa question, hein. Il ne répond pas qu'est-ce qu'il faut pour obtenir la vie éternelle. Jésus répond à une autre chose. Il répond à un truc pour le flatter un petit peu. Puis il peut dire « Ah ouais, alors, je suis bien. » Et puis après, il lui jette la figure à la vérité. Si je peux dire comme ça. Donc Jésus lui dit « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » Et l'homme lui répondit « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Ah, c'est bon, moi, alors, hein, waouh, je suis un homme génial. Tout est garanti pour moi, comme c'est merveilleux. Je suis un homme extraordinaire. Il a dû penser. Et puis là, Jésus regarda avec amour, donc c'est pas vraiment juste de dire qu'il a jeté la vérité dans la figure. Mais Jésus a regardé avec l'amour, c'est plutôt qu'il a ouvert les yeux de cette personne, pour qu'il voie la réalité qui était dans son cœur. Il y a des choses dans ton cœur qui ont encore besoin d'engagement. C'est ça que Jésus a voulu dire. Il y a des choses dans ton cœur qui ont encore besoin d'engagement. Il lui a fait voir un truc qu'il ne voyait pas. Donc Jésus regarde avec amour et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne ton argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Ah, quelle tristesse! L'homme, il est venu tout motivé, il s'est jeté aux pieds de Jésus, il a dit, il n'y a rien qui me retient! Et puis, quand c'était le moment de s'engager, pas de promesse, hein. Ça c'est trop dur pour moi. Il a eu peur de perdre ses richesses. Pensez que quelle de ces deux peurs était la plus grande pour lui, les jeunes. C'est plutôt d'être prisonnier dans un engagement, ou plutôt la peur de commencer un truc et puis après de retourner, d'échouer. Qu'est-ce que vous dites? Prisonnier ou abandonné?
Abandonné.
Abandonné. Quand tu penses qu'elle a eu peur le plus, la plus forte était celle-là. Tu penses qu'il y avait les deux et tu penses que c'est la plus grande. Et vous? Prisonnier. Prisonnier aussi, trois. Prisonnier. D'accord. Donc, il y a eu plus de votes pour ça pour l'instant. Donc, je vais prendre celui-là. Je suis d'accord qu'il y avait aussi cette peur de prisonnier. S'il perdait ses richesses, il n'allait plus les récupérer. Hein. Il n'allait plus pouvoir retourner à sa vie ancienne. Il allait être prisonnier de son choix, de cet engagement-là. Et il n'allait plus réacquérir sa maison, son char ou quoi d'autre que ce qu'il a. Et Jésus, il a toujours donné la liberté aux personnes de répondre ce qu'il voulait. Hein. Il n'a pas forcé des engagements. Il a toujours donné la liberté. Mais alors, quelle serait la clé pour vaincre ces deux peurs qui sont là? Après qu'il est parti, le jeune homme, Jésus, il répond quelle est la clé, mais il répond que pour ses disciples. Le texte dit, les disciples furent troublés par tes paroles. Comme nous. Je pensais de dire, c'est trop dur ce que tu demandes à cet homme-là. Mais Jésus leur dit encore, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient de plus en plus étonnés. Hein, ils se demandèrent les uns aux autres, mais qui donc peut être sauvé? Et Jésus les regarda et dit aux hommes, cela est impossible. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est impossible de s'engager à vie avec Jésus et ne pas échouer. C'est impossible. Pour nous, en tant qu'êtres humains. C'est impossible si on est avec l'attitude de cet homme aussi. J'ai fait tout cela, j'ai accompli tout cela depuis ma jeunesse. C'est pas avec cette attitude-là qu'on va réussir. Parce que si on est avec cette attitude-là, Jésus va mettre en évidence la racine qui est dans notre cœur. Ah, il y a ce point-là et ce point-là encore qui a besoin d'être changé. On va échouer de toute façon devant Jésus qui voit tout. Mais tout est possible à Dieu. Il voulait dire, c'est que en dépendant de Dieu qu'on peut réussir. Tout seul, c'est pas possible. C'est pour ça que tous les engagements avec Dieu qu'il y a dans l'armée du salut terminent avec une phrase style, avec Dieu, je m'engage à ça. Ou par la force du Saint-Esprit, je m'engage à ça. Donc, on a vu la peur de l'engagement d'un personnage biblique. Et tout de suite après que Jésus est ressuscité, les chrétiens ont eu de gros ennuis. Ils ont commencé à être persécutés. D'abord, ils étaient expulsés des synagogues par les Juifs, parce que les Juifs n'arrivaient pas à voir en Jésus le Messie qui était promis dans la Bible. Donc, s'engager avec Jésus voulait dire être expulsé des synagogues, être tabassé, être même tué. 30 ans après la mort de Jésus, c'est Rome qui commence à persécuter les chrétiens. Ils se sont multipliés et le problème, c'est qu'ils refusaient, par exemple, de faire le culte au Dieu protecteur de la ville. Donc, ils étaient éparpillés dans les villes. Il y avait un culte obligatoire pour demander au Dieu de protection, la protection des dieux pour la ville et les chrétiens se refusaient de participer à ces cultes. Donc, s'il y avait quelque chose de mauvais qui se passait à la ville, la famine, des attaques, c'est la faute aux chrétiens, ils n'ont pas adoré le Dieu protecteur de la ville. D'autres chrétiens ne voulaient pas servir l'armée. Donc, c'est aussi des traîtres. Si tu veux pas servir dans l'armée, tu es un traître contre ton pays. Alors, ils ont été aussi pris et mis dans les... Ils ont été jetés au lion. Il y a des choses beaucoup plus pires encore se sont passées avec des chrétiens et ça ne valait même pas la peine de mentionner. Mais encore une fois, là, si tu voulais s'engager, c'était à vie ou à mort, je devrais dire, s'engager avec Jésus. Les deux peurs présentes, laquelle vous pensez qui tracassait les premiers disciples le plus 30 ans après la mort de Jésus? La peur de devenir prisonnier ou la peur de commencer un engagement et puis arrêter? Prisonnier. Et les autres là? Qu'est-ce que tu dis, Ruben?
Prisonnier.
Si.
Prisonnier.
Prisonnier. Je pense aussi. C'était vraiment la peur d'être prisonnier et pire que ça. Mais ils avaient vu que moi, revenir en arrière, ils allaient perdre quelque chose et c'était irréversible. Et les gens, malgré cela, ils continuaient à s'engager. Il y avait des chrétiens partout. Il y a un homme que Lorraine aime beaucoup aussi qui s'appelait Tertullien. Et il a écrit dans les années 190 pour défendre les chrétiens auprès des autorités. Il a écrit comme ça. Vous nous appelez les petits, mais nous sommes partout. Dans les villes, dans les campagnes, sur la mer, dans l'armée, dans le palais, dans les maisons de tous. Nous sommes comme le feu qui ne peut être éteint, comme la lumière qui ne peut être obscurcie, comme un torrent qui ne peut être contenu. Nous sommes partout et nous ne pouvons pas être cachés. Il a écrit pour défendre les chrétiens vers l'année 190. Ils ont vaincu la peur. Les hommes et les femmes s'engageaient malgré la peur d'être emprisonnés. Et cette fois, c'était réellement à cause de cet engagement-là qu'ils étaient mis en prison physiquement. Il y a eu des vagues de persécution et des moments calmes pendant 300 ans, jusqu'à ce qu'environ 300 ans plus tard, un empereur décide de ne plus d'arrêter cette persécution complètement. Et là, plus de persécution, c'est bien. Un peu plus tard, c'était l'obligation de devenir chrétien. Alors là, c'était moins drôle. Donc, à un moment donné, le christianisme était la religion officielle, tout le monde devait être chrétien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a changé de religion, c'était obligatoire de se faire baptiser, ben, on se fait baptiser, et puis voilà. Puis on continue à faire tout ce qu'on faisait avant. Donc, c'était positif pour la persécution des chrétiens, mais pas pour la vie avec Dieu. Parce que c'était juste, je me fais baptiser, je m'en fiche. Donc il a commencé à voir, à partir de là, une tension entre des vrais chrétiens engagés avec Dieu et le chrétien par habitude, déjà à cette époque-là. Et quelques-uns ont commencé à dire, il faut s'engager avec Dieu. C'est pas juste de se baptiser à aller au culte. Il faut s'engager avec Dieu. Et puis il a commencé à avoir une explosion de types de monastères. Donc les gens qui avaient une profession ordinaire, qui disaient « Non, mais j'ai envie de m'engager vraiment avec Dieu, je n'ai pas envie de ce style de vie. » Et puis ils laissaient leur profession et puis ils sortaient, ils allaient vivre en communauté dans un monastère ailleurs, pour s'engager avec Dieu. Il y avait aussi un sentiment de révolte pour certains leaders religieux qui étaient associés au roi et puis qui devenaient riches à cause de la religion ou grâce à leur église. Et puis, c'est pas ça, le style de vie que Jésus nous a appelé. Et puis, ils abandonnaient aussi ce style de vie pour se mettre dans un monastère et pour rechercher Dieu. Et puis, il y avait toujours la prière, la méditation et le service comme des points importants de cet engagement avec Dieu. Et très souvent aussi, il y avait la simplicité, donc ne pas cumuler des richesses, vivre une vie simple, le célibat et l'obéissance au leader. C'était le pape qui était très présent dans ce moment-là. Et quelques monastères demandaient un engagement à vie. Ils pouvaient toujours sortir, mais ils demandaient un engagement à vie. Qu'est-ce que vous pensez alors que c'était une des peurs de rejoindre un monastère, s'engager avec Dieu? Quelle était la plus forte peut-être? Il y avait les deux, mais vous pouvez voter. Il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Hein? Qu'est-ce que vous pensez là-bas? Comment? Prisonnier aussi. Prisonnier.
Moi, je pense que c'est
la peur de ne pas finir. Ne pas être jusqu'à vie dans un monastère. Peut-être de sorte que s'il y a plus de voix pour ça, je regarde celui-là. Il y avait cette peur. Ils ont dû travailler ces peurs-là pour pouvoir rentrer. Je vous dis, il y a eu des excès de déviance partout. Hein. Ce n'étaient pas des chrétiens parfaits ceux qui s'engageaient. Il y a eu des excès, il y a eu des déviances. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois, il y a cette compréhension, il faut un engagement avec Dieu. Être disciple, c'est s'engager. C'est ça, être un disciple, c'est s'engager. Et beaucoup plus tard, on arrive dans les fous de 1865, notre église. Notre église qui a voulu faire des réunions dans des cirques, dans des locaux où il y avait des concerts de tous les jours, ils faisaient des réunions là-dedans, pas dans un temple. Et pour eux, là c'est un officier,
un autre officier ici, ou un soldat.
Ah, qui a oublié le képi. Pour cette notion d'engagement, de faire des promesses à Dieu, même publiquement, de faire alliance avec Dieu, cette notion très chère.
C'est ivre.
Dans tous les pays que j'ai visités, l'armée du salut invite les chrétiens, pas seulement à accepter Jésus en tant que sauveur, mais de s'engager avec lui, de faire une alliance avec lui. Et c'est pas du tout négatif, hein, en fait, c'est très positif. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, au tout début de l'armée du salut, ils ont décidé de ne pas pratiquer le baptême. Parce qu'ils avaient des horreurs de chrétiens qui pouvaient s'asseoir et dire « C'est tout bon, je suis baptisé, je suis disciple de Jésus. » Ah non, 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 c'est pas ça être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est s'engager dans tous les domaines de ta vie, dans la gestion de ton temps, dans le choix de tes loisirs, dans toutes tes relations, dans le but que tu donnes à ta vie. C'est ça être disciple de Jésus. Ce qui fait un disciple de Jésus, c'est pas le baptême, c'est l'engagement avec lui. Juste le symbole du baptême ne signifie rien si tu ne t'engages pas avec Jésus. Si tu ne t'engages pas avec Jésus. C'est pour ça qu'ils ont décidé au tout début de ne pas pratiquer. Ils ont voulu une église qui annonce ça fort pour tous les chrétiens. Et c'est un peu pour choquer. Parce que tout ce que l'armée de salut faisait au début, c'était pour choquer. Des uniformes, c'est pour choquer et puis attirer les gens. Prendre la musique non chrétienne et jouer dans les fanfares, c'est choquant pour les chrétiens. Tu peux pas faire ça. Mais c'était pour attirer les gens pour Jésus, pour un engagement avec Jésus. C'était pour choquer et attirer. Et le baptême, c'était aussi ça. En refusant de pratiquer le baptême, c'était en train qu'il disait, on est tellement sûr que l'engagement avec Jésus compte plus que le baptême qu'on va même pas se faire baptiser. Oh non, mais tu peux pas faire ça. Le choc pour les autres églises. Comment vous pouvez même être sauvé si vous n'êtes pas baptisé? C'est ce que les autres églises avaient fait. C'était pour réveiller les gens. Ils disaient, ils choquaient pour ça, pour rapprocher les gens de Jésus. Tu es baptisé? Très bien, mais engage-toi avec Jésus aussi. Sinon, ça va rien servir. Ce symbole. L'eau, c'est juste un symbole de ce que je veux vivre tous les jours. C'est un témoignage public. Je m'engage avec Jésus tous les jours. Et c'est ça qui représente ce symbole-là. Aujourd'hui, on accompagne toute personne qui veut se faire baptiser dans presque tous les postes que j'ai déjà passé. Et puis, il y a toute sa pertinence. C'est un symbole biblique institué par Jésus. C'est un témoignage public de quelque chose qui s'est passé intérieurement. C'est important, c'est un rite de passage. Et tout en accompagnant ceux qui veulent se faire baptiser, on continue à croire que l'engagement, c'est plus important que le symbole. L'engagement est plus important que le symbole. Aujourd'hui, donc, j'aimerais voir un des engagements avec Dieu que notre Église propose, un engagement qui est déjà valable pour vous, les jeunes qui sont là, et c'est pour ça que je vous ai voulu ici avec nous. Pendant toute cette série, quel que soit votre stade de cheminement spirituel, je vous invite à réfléchir, comme Jésus a demandé, quel type d'engagement il veut de votre part. Très probablement, il sera personnalisé et différent pour chaque personne. Très probablement, il sera différent pour chacun d'entre nous. Mon rôle en tant qu'officier n'est pas d'enrôler les soldats, principalement. Mon rôle d'officier, c'est de faire des disciples de Jésus. Ah oui. Et si Dieu vous appelle pour un engagement tel qu'il est proposé par notre Église, alléluia, on va vous accompagner là. Si c'est pour un autre type d'engagement, alléluia, on va vous accompagner là. Il n'y a pas un qui est plus disciple que l'autre. Les deux sont disciples de Jésus, mais il faut s'engager avec Jésus. Ces modèles nous aident beaucoup à réfléchir quels sont les points importants à mettre dans un engagement avec Jésus. C'est pour ça qu'on va les lire. Et sur le site, j'ai déjà mis... Il y a les modèles que l'armée de salut propose et il y a déjà un modèle personnalisé où le dernier jour de cette série, je voudrais que vous preniez, je vais les imprimer, vous pouvez déjà imprimer à la maison, et écrire qu'est-ce que vous voulez vous engager avec Jésus encore une fois, ou qu'est-ce que vous voulez vous engager pour la première fois avec Jésus, qu'est-ce que vous voulez mettre à jour dans un engagement passé que vous avez déjà fait avec Jésus, puis de l'écrire et de présenter devant Dieu lors du dernier jour de notre série. Cet engagement avec Dieu, j'ai très à cœur parce que c'est le premier engagement que j'ai pris avec Jésus après d'avoir donné ma vie avec lui. J'ai donné ma vie à Jésus. Et après, C'est le premier que j'ai fait après ma conversion. Ça s'appelle « La promesse de jeune soldat » et puis elle dit comme ça. Je crois que Dieu m'aime et que Jésus m'a délivré du péché. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes et je suis un enfant de Dieu. C'est une déclaration de foi simple, on peut continuer encore. Une déclaration de foi simple. Elle veut dire, j'ai déjà commencé à cheminer avec Jésus. Je sais qu'il a pardonné mes péchés, c'est pour ça que je suis un enfant de Dieu. Il m'a pardonné. Voilà. Et après, ça commence. Je veux aimer Dieu, lui obéir et encourager d'autres à suivre Jésus. Je veux prier, lire ma Bible et mener une vie pure en pensée, en parole et en acte. Ce qu'il dit dans cette parole, avant encore, c'est que je veux m'approcher de lui. Le péché nous éloigne de Dieu. Dieu est la meilleure personne au monde. Je ne veux pas m'éloigner de Dieu. Donc, je veux travailler pour éliminer le péché dans ma vie. Je veux cheminer dans cette direction. Après, je m'abstiens de la drogue, de l'alcool, du tabac et de tout ce qui nuit à ma santé, dans ma relation avec Jésus. Notre Église, au fil de l'histoire, a tellement aidé des personnes qui étaient addictes à la drogue ou à l'alcool qu'ils ont dit « on va tous s'abstenir pour les aider ». C'est important pour eux de s'en sortir. On va les aider à s'en sortir et puis on s'engage avec eux à l'abstinence. C'était pour ça. Et il termine, comme j'ai dit, la promesse avec ça. Prochain. Avec l'aide du Saint-Esprit, je promets d'être un fidèle jeune soldat. Avec l'aide du Saint-Esprit, je m'engage avec Jésus. Un engagement, même un engagement de mariage, je ne considère pas quelque chose qu'on a déjà réussi quand on promet. Parce que, par exemple, je promets à ma femme d'être fidèle quand elle sera très malade. Mais quand on se marie, j'ai jamais vécu cette situation. Donc, je peux seulement accomplir cette promesse si un jour elle tombe très malade et que je dois être fidèle dans ce moment-là et puis prendre soin d'elle dans ce moment-là. Je n'ai pas encore réussi quand j'ai promis. Ou quand je m'engage d'être fidèle à elle tous les jours de ma vie. Probablement, ce n'est pas le jour de mon mariage que j'étais plus tenté à abandonner le mariage. Ça viendra plus tard, ça. Et c'est là que je vais devoir accomplir cette promesse. Donc une promesse, c'est pas « je réussis déjà à faire tout maintenant », c'est plutôt une vision, un objectif de vie. J'ai envie d'atteindre ce but-là. Et je m'engage à cheminer dans cette direction-là. Même si maintenant, j'arrive pas à tout faire. C'est une vision pour le futur, un engagement. Je considère ça, c'est comme une vision d'entreprise. Il faut qu'elle soit un peu audacieuse. L'entreprise, elle dit « juste les mêmes chiffres de l'année passée, et puis c'est bon, une bonne vision, ça. » Non, personne ne va vouloir se bouger pour faire quelque chose, il faut que ce soit un peu plus audacieux. On n'arrive pas encore, mais j'ai envie de cheminer en cette direction-là. C'est ça une promesse, c'est ça un engagement. Je chemine dans cette direction-là, c'est le but de ma vie, et c'est audacieux. Je veux aller jusque-là. Clarissa m'a récemment dit la peur qu'elle avait au début de son engagement avec Jésus, de des choses qu'elle allait devoir laisser. Elle m'a dit, ouais, avant de m'engager avec Jésus la première fois, je me disais, ouais, je vais devoir changer ma manière de me vêtir, je vais devoir changer ma manière de parler quelque chose, je vais devoir laisser quelques amitiés, et puis ce sera un fardeau de porter ça. Elle avait cette peur-là, elle m'a dit récemment. Et puis elle m'a dit, c'était surprenant. Une fois que je me suis engagé avec Jésus, ça n'avait plus aucune valeur. Bon, aucune valeur. Tout ce que j'avais peur au début. J'ai gagné beaucoup plus en laissant ces choses de côté. Moi-même, surtout quand même, j'ai sorti de la maison de mes parents, je me suis dit, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Est-ce que je vais persévérer dans les promesses que j'ai faites? Par exemple, celle-là, je me souviens. Et puis, ça m'a fait, en fait, dépendre plus de Dieu, parce que je ne peux pas, j'arrive pas tout seul. C'est ce que Jésus a dit, c'est impossible. Et ça m'a fait dépendre de Dieu et dire, Dieu m'a dit, tu peux mettre ça en place, tenir ferme, tu peux s'appuyer sur telle personne, tu peux rendre des comptes à telle personne. Ça, ça va t'aider à garder le cap, à corriger ton chemin quand tu te dévies de tes promesses que tu as faites. Et là aussi, la montrée, il est fidèle. Tout est possible à toi. Même si c'est impossible aux êtres humains. Et aujourd'hui, je veux demander d'abord à vous, les jeunes, si est-ce que vous, voulez vous engager avec Jésus aujourd'hui, dans cette nouvelle classe qui commence. Peut-être que Dieu vous appelle à un engagement profond avec lui qui commence aujourd'hui, qui va cheminer pendant toute votre vie. Peut-être que vous n'avez jamais dit, Jésus, je veux que tu sois le maître de ma vie. Peut-être que vous n'avez jamais dit ça. Vous pouvez des fois penser, mes parents considèrent Dieu comme le maître de leur vie. Mais moi, je vais à l'église, je vais à l'école du dimanche. J'ai jamais dit, Jésus, je veux que tu sois le roi de ma vie. Ça change toute une vie, dire ça. Pendant qu'on chante de nouveau, oui, prends tout Seigneur, je vous invite à venir, si vous voulez vous engager avec Jésus, à vivre.